midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous montrez que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, on part pour un trajet en voiture sur la route du futur. À la veille des vacances, on a eu envie de vous montrer que de nouvelles infrastructures plus innovantes et plus intelligentes aussi sont en train d'être inventées chez nous, ici en France. Elle existe depuis 1886. Elle a été le leader du marché des toilettes dans notre pays pendant les 30 Glorieuses. Griffon est aujourd'hui l'entreprise qui va mieux, merci. Et puis vous êtes peut-être malvoyant, vous voulez assister à un spectacle au théâtre par exemple, les souffleurs d'images sont la solution pour vous décrire ce que vos yeux ne peuvent pas distinguer.
Europe 1.
39-21, vous pouvez dès à présent décrocher votre téléphone. Venez nous dire, Anissa, comment vous voyagez et ce qui vous dérange quand vous prenez le volant pour un long trajet.
Oui,
et
puis venez nous dire aussi comment vous imaginez les routes de demain. Les invités de Raphaël Duchemin répondront à toutes vos questions. Dès maintenant, il faut composer le 39-21, c'est simple, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir, apporter vos témoignages, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et évidemment, nous vous emmenons sur ces routes du futur, vous vous en doutez. Vous serez peut-être très nombreux hein, dès ce week-end à prendre la direction des vacances avec parfois plusieurs centaines de kilomètres à parcourir. Mais vous allez voir que la chaussée, elle aussi, est en train d'évoluer à notre service pour accueillir ceux qui innovent. Justement, à mes côtés, comme chaque jour, elle est là. C'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach, c'est Thomas Hurier, aujourd'hui fondateur des Jeans 1083. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
La route de demain, elle va, vous allez voir, beaucoup changer. Elle sera aussi bourrée de technologies. C'est ce à quoi travaille notamment Alta Road. Bonjour Cécile Villette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de cette start-up créée assez récemment, finalement, hein, fin 2017. Mais l'idée, elle a germé dans vos têtes. Je dis vous parce que vous êtes avec une cofondatrice. 2 ans plus tôt, vous avez eu envie d'avoir des informations qui puissent remonter sur l'état de la chaussée pour essayer de la faire durer plus longtemps. C'est ça l'idée de départ.
Tout à fait. Alors en fait l'idée c'était que quand on regarde les infrastructures aujourd'hui, les routes, on voit des fois des trous et on voit aussi souvent des travaux. Mais ces travaux, la question c'est est-ce qu'on les fait au bon moment ? Et aujourd'hui, en fait, on les fait soit quand on voit qu'il y a des
quand
problèmes.
Quand l'asphalte est détériorée.
Voilà, quand ça commence à se détériorer. Ou bien on peut les faire de manière planifiée. Mais on a peu d'infos pour savoir si dans 6 mois, est-ce que c'est à cet endroit-ci ou à cet endroit-là que je dois réparer ma route, où est-ce qu'elle s'abîme le plus vite finalement.
Donc vous avez eu envie de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, c'est-à-dire bourrer la route de petits capteurs qui vont pouvoir finalement nous faire remonter tout un tas d'informations, comme l'usure justement du bitume.
Voilà, alors en fait notre idée c'est, nous on est, et c'est là où on s'est retrouvés avec ma cofondatrice, on est intimement convaincus qu'il faut faire quelque chose pour rendre la mobilité durable, parce que finalement entre la façon dont les véhicules circulent et puis les infrastructures qu'on met en place, c'est très polluant. Et donc, on voulait rendre ça plus efficace. Et plus efficace, ça veut dire une route qui est moins abîmée parce que dans ce cas-là, les véhicules polluent moins et puis c'est moins dangereux aussi. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va équiper certains endroits avec des capteurs. On n'est absolument pas pour en mettre partout,
bien sûr,
parce que dans ce cas-là, sinon, c'est plus du tout écologique. C'est plutôt des points stratégiques pour avoir une information de l'intérieur de la route et voir comment elle se déforme au cours du temps et en continu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est de l'intérieur et en continu. Est-ce qu'elle s'abîme vite ou est-ce qu'en fait, elle va bien ?
Donc, on permet, avec ces capteurs, de détecter l'usure.
En fait, ce qu'on va voir, c'est la déformation au cours du temps de cette route. Et à partir de là, mesurer si elle se déforme, est-ce qu'elle devient moins élastique finalement et est-ce qu'il faut la réparer bientôt.
Et après, vous agissez ou comment ça se passe?
Alors le but, oui, nous, on n'est pas réparateur de route. On va aller donner l'information aux personnes qui sont gestionnaires de la route. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment, dans un premier temps, de donner l'info. Cette route-ci, il faut la réparer dans 6 mois, dans 1 an ou au contraire, celle-là, elle va bien.
C'est d'autant plus important, Elisabeth, que l'état des routes en France n'est pas toujours très bon.
Hein, oui, il y a un rapport accablant qui avait dénoncé justement l'état des routes en France il y a tout juste un an. Il avait été réalisé à la demande du ministère des Transports. Et si on se réfère à ce rapport, eh bien, le réseau routier national est très dégradé. Il en était ressorti qu'il fallait 1 milliard d'euros par an pendant 20 ans. C'est la somme qu'on devrait investir pour que les routes puissent rester pratiques. impraticables, hein, les ponts qui menacent de s'affaisser, des tunnels en mauvais état, des nids de poules, enfin un réseau routier national très dégradé.
Alors justement, Cécile Villette, ça c'est le projet global, c'est celui qui vous tient à cœur, mais en allant voir ceux qui travaillent tous les jours sur ces fameuses routes, vous vous êtes aperçu qu'il y avait un besoin beaucoup plus urgent. Il concerne très précisément les camions et leur dangerosité.
Oui, alors en fait, on s'est rendu compte, nous, on était partis avec notre idée de capteur dans les routes et on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt. Donc, on a commencé à travailler sur ça et on le fait en mode progressif parce que les startups, il faut être agile. Donc, on continue à travailler sur ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait certains industriels qui voulaient peser leur poids lourd à certains points spécifiques du réseau pour que, un, ils ne soient pas en surcharge, parce qu'une une surcharge, c'est dangereux, puis deux, ça fait des amendes. Donc ça, quand on est un industriel, c'est soit du temps, soit de l'argent, enfin, ou les deux, donc à optimiser. Et il y a un autre enjeu pour les industriels aujourd'hui qui font des chantiers. Ils veulent tracer ces déchets parce qu'ils veulent les revaloriser. Et pour en fait rentrer dans un mode d'énergie, d'économie circulaire, oui. Où on doit tracer de là d'où viennent les matériaux pour pouvoir mieux les réexploiter derrière, il faut pouvoir, sur site, être capable de catégoriser le volume qu'on a sorti, le poids. Et donc nous, on vient s'interfacer là, on se met à la sortie des chantiers pour être capable de peser ces poids lourds.
Avec une bande, c'est ça, de 30 cm de large qui est là aussi sur la route ?
Oui, alors dans ce cas-là, en fait, on s'est rendu compte que le besoin, c'était les chantiers, ça peut être n'importe où et c'est pas toujours permanent, c'est même souhaitable que ce soit plutôt temporaire. Donc le but, c'est que ce soit un système facilement déplaçable. Donc il faut imaginer que c'est une bande que vous avez en travers de la route. Aujourd'hui, il y a des fois, vous passez sur ces fils noirs.
Ah oui.
Qui fait poutoum poutoum. Bon, voilà, ça aujourd'hui, ça compte. Alors que nous, ce qu'on fait avec notre bande, on va être capable de peser et avoir des informations sur l'empreinte des pneus et avoir du coup une vision sur tout le véhicule très précis.
Que dit notre coach, Thomas ?
Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, quand on pense à ce monde des travaux publics, on imagine que des grosses sociétés et que des hommes, etc. Et là, vous êtes une start-up montée par deux femmes.
Trois femmes.
Et sur un produit vraiment très original. Comment vous est venue l'idée, en fait ? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'origine de l'idée à la base. Comment c'est venu ?
Oui, on est improbable, en fait, comme casting. À l'origine, c'est la première qui a pensé à ça, c'est ma cofondatrice Bérangère. Elle avait fait l'école polytechnique et derrière, elle a fait un doctorat en génie civil.
Vous avez des profils très complémentaires, d'ailleurs.
C'est ça. On s'est bien retrouvés. Et avec ce doctorat, elle avait commencé à travailler sur des capteurs pour les mettre dans le béton, pour ensuite les mettre dans la route. Et c'est là qu'elle a commencé à germer l'idée et son idée initiale. Elle, c'était vraiment la maintenance prédictive. Donc c'est pour ça que c'est toujours notre trame de fond, même si on a trouvé pour y aller un moyen avec les chantiers.
Comment vous allez faire ou comment vous faites déjà pour entretenir les capteurs s'ils sont, pour le projet à plus long terme, hein, si j'ose dire, s'ils sont à l'intérieur de la route ? Comment est-ce que vous agissez ? Est-ce que ces capteurs, on peut les remplacer ? Est-ce que si un tombe en panne, les autres continuent de fonctionner ?
Oui, alors on a pensé à ça bien sûr dès le début. C'était ma vie dans les télécoms avant. Oui. En fait, quand on déporte des capteurs ou votre Freebox, etc., on ne veut pas venir la rechercher. Parce que ça coûte cher en technicien si on le déplace. On veut que le système soit capable de s'auto-régénérer tout seul, de se reconfigurer. C'est comme ça qu'on a pensé notre système. Donc on va aller le mettre sous la route. Il n'est plus question d'aller le rechercher après. Il faut donc qu'il y ait déjà trop de capteurs pour que si jamais il y en ait qu'on perde, eh bien c'est pas grave parce que les voisins vont donner l'information. Et deux, qu'on puisse gérer le système à distance pour recalibrer ceux qui auraient dévié.
On reste ensemble et on continue notre route aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si cette route, elle changeait de couleur pour nous avertir si elle est gelée ou si c'est la nuit, ce n'est pas de la fiction, c'est ce que fait Olychrome. À tout de suite.
La France bouge, enfin, la France roule aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, vous nous proposez aujourd'hui de découvrir toutes les innovations françaises en matière de route. La route se réinvente, on en parle et vous pouvez vous aussi poser vos questions aux invités de Raphaël au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Anissa, vous connaissez les bandes blanches, hein, évidemment sur l'autoroute. Mais peut-être
dessus.
Que demain, vous allez voir, la chaussée pourra aussi, en fonction de l'heure, de la température ou d'autres éléments extérieurs, changer de couleur. Bonjour Jean-François Létard.
Bonjour à
tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur d'Olychrome. Alors à la base, vous êtes chercheur et je crois qu'au CNRS, pendant de longues années, vous avez voulu vous intéresser plus particulièrement aux matériaux qui changent de couleur, justement. Et puis, à force de chercher, vous vous êtes dit, il faudrait peut-être que je passe à la phase concrète. C'est comme ça que naît un peu Olychrome.
Exactement. 17 ans chercheur au CNRS, une belle carrière, de nombreuses recherches, dépôts de brevets. Et puis, une volonté d'aller au-delà, c'est-à-dire ne pas rester qu'au stade du laboratoire, mais être capable de transformer ces pigments pour les amener jusqu'à une application. Et donc, on a créé Olychrome en octobre 2014. Une aventure personnelle,
à Pessac.
Et puis, petit à petit, j'ai créé une équipe autour de moi. Et aujourd'hui, on est 14, avec, toute une équipe. Et on travaille dans l'industrie au sens large. Que ce soit aéronautique, automobile, médical, cosmétique. Aujourd'hui, on va parler du domaine routier.
De la route, bien sûr.
Mais on travaille sur l'intelligence des couleurs. C'est comment on est capable de changer la couleur pour alerter, avertir d'une anomalie par la température, la pression, un gaz, une lumière excessive. Et tout ça pour des enjeux de sécurité.
Donc, votre idée, c'est de permettre, grâce à ces pigments qui vont venir, en l'occurrence, intégrer l'enrobé de nos routes, de guider les automobilistes, par exemple, avec des enrobés qui s'illuminent la nuit.
Alors, l'idée est partie, avec le partenariat Eiffage, d'essayer de développer un marquage routier, une peinture routière, qui soit capable de capter la lumière la journée et d'éclairer la nuit comme un guide lumineux.
Donc de l'emmagasiner la journée et de la restituer la nuit.
Exactement, comme dans les chambres des enfants, cette petite étoile qu'on a au plafond, mais d'arriver à transformer ça au niveau du marquage routier. Alors il y a eu une tentative aux Pays-Bas en 2014 qui s'est arrêtée au bout de quelques semaines parce qu'en fait la technologie n'a pas tenu.
C'est-à-dire que moisi, la peinture n'était pas efficace.
Et ça ne tenait pas. Nous, on a donc tout repris. En étant avec une approche scientifique et puis armé de notre partenaire Eiffage qui nous a appris aussi le domaine du routier. Et puis, on s'est battu et après 2 ans de travail commun, on a été capable de développer une peinture et on l'a appliquée depuis septembre 2018 sur une piste cyclable à Pessac qui a été notre premier test. Et puis, en même temps, on l'a déposée sur la Nationale 2 pour entamer la certification puisque tout marquage français doit être certifié.
Mais alors, comment vous faites ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette peinture que vous appliquez pour qu'elle puisse à la fois être phosphorescente, qu'elle n'ait pas la problématique de celles qui ont été inventées avant ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez trouvé la formule magique ?
Alors, on va dire qu'on a trouvé la formule magique. Si on regarde aujourd'hui, on est à plus d'un an et demi de retour sur les premiers chantiers et tout se passe bien. La technologie tient. Donc oui, on va peut-être dire qu'on a trouvé cette baguette magique. Aujourd'hui, elle permet... Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet vraiment de sécuriser et d'améliorer...
Les vélos, par exemple, les trottinettes qui roulent la nuit, qui n'ont pas les feux, comme les voitures.
La mobilité douce. La mobilité douce, et notamment dans toutes ces villes qui commencent à éteindre l'électricité une partie de la nuit, et où, en fait, tout déplacement devient un piège. C'est-à-dire que pour le piéton, le vélo, la trottinette, la nuit, il est impossible de se repérer. On ne voit plus les trottoirs, on ne voit plus les passages piétons. Pour un vélo, il voit la piste cyclable avec sa petite lampadaire, mais quelque part, il ne peut pas anticiper les virages au devant de lui. Et grâce à cette peinture, il arrive à voir à peu près jusqu'à 80 mètres devant lui, même dans les bois, dans les sous-bois.
Le coach, Thomas.
Oui, j'avais une question par rapport à l'éclairage public. C'est réputé consommer beaucoup d'énergie et puis provoquer une pollution visuelle importante, notamment la nuit. Est-ce que ça remplace finalement l'éclairage public ou est-ce que ça le complète ?
Alors, je dirais que ça va le compléter. C'est absolument pas une lumière et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça s'appelle, c'est un guide lumineux qui va permettre de s'orienter, d'anticiper les virages, d'avoir une amélioration de la visibilité.
C'est un outil de guidage finalement.
C'est un outil de guidage et c'est un outil de guidage qu'on va tester aujourd'hui sur la route, sur les routes et les autoroutes. Mais il est déjà en vente aujourd'hui pour les vélos. Il y a 3 pistes cyclables qui sont déjà équipées et d'autres sont en cours de réalisation.
Thomas.
Et justement, pour les cyclistes, on a un problème de visibilité quand on est cycliste, donc on converse avec un merveilleux gilet jaune et ce n'est pas très beau. Nous qui faisons de la mode, on serait très intéressés, par exemple, que ces pigments puissent les intégrer dans les teintures de nos vêtements. Est-ce que demain, c'est possible que nos jeans ils soient bleus avec des pigments fluorescents qui nous permettent d'être vus la nuit quand on fait du vélo avec nos jeans ?
Alors, la réponse est oui. On a déjà, aujourd'hui, on est en train d'équiper des casques de vélo.
Et voilà le futur
on est en train
projet
de faire
de Thomas
aussi des motos. En fait, on est capable d'améliorer la visibilité puisque quelque part, tous ces pigments sont capables de se charger aussi bien à la lumière du soleil qu'à la lumière artificielle d'un éclairage, ce qui veut dire qu'on déploie ça aussi dans la sécurité industrielle, c'est-à-dire sur des parkings, sur des souterrains, sur des endroits où il y a besoin d'assurer
et demain pour le personnel. Dans les EHPAD ou exactement. Dans les hôpitaux, hein, c'est la même problématique. Vous parliez du solaire, Elisabeth, la route solaire, elle est en train
elle
de prendre
elle
forme.
Elle est en cours d'expérimentation, ça fait 5 ans qu'il y a le... Il y a le groupe, l'entreprise Wattway du groupe Colas hein, qui travaille dessus. Ce n'est pas encore terminé. Là, il s'agit d'un revêtement antidérapant de 7 mm d'épaisseur composé de capteurs photovoltaïques avec, bon, j'ai des termes un peu techniques, hein, en fine feuille de silicium polycristallin collé à même la chaussée. L'entreprise continue de travailler dessus. Hein. Ils en sont à la 7e version des dalles solaires et à leur 19e protocole d'expérimentation. Ils vont y arriver, mais ça prend un peu plus de temps que prévu, parce que ça devait être la commercialisation devait avoir lieu courant 2019.
Je crois que vous aviez une question, Anissa.
Oui, moi je voulais savoir quelle était la durée de vie de cette peinture, parce qu'une fois que vous avez repassé un passage piéton avec cette peinture, il y a des voitures qui vont passer dessus, des trottinettes, des vélos, des piétons. Il va falloir repeindre combien de fois ce passage ?
Alors justement, c'est pour ça que toutes les peintures en France sont certifiées, c'est-à-dire qu'on est actuellement en période de certification sur la RN2. Mm-hmm. L'année dernière, on a fait les premiers dépôts. Cette année, on voit que nos dépôts ont parfaitement résisté toute l'année au passage de camions, de voitures, d'intempéries. On attend la certification. Si tout va bien, on aura la certification en fin 2020. Ce qui veut dire que pour le déploiement sur route et autoroute, il faudra attendre cette certification, sauf pour faire des arrêtés.
Oui, mais du coup, la certification, ça donne quoi en délai de repeinte ?
Combien de fois est-ce que vous allez devoir repasser ?
Alors, ce n'est pas la question de l'aspect lumineux, c'est surtout l'arrachage naturel d'une peinture qui est provoqué au bout de 2 ans, 3 ans. Okay. Et puis, dans les zones à fortes zones de cisaillement, comme les ronds-points, les stops, eh bien, on est quelque part obligé de repeindre tous les ans. C'est ce qui se passe aujourd'hui déjà.
On reste ensemble et on continue notre chemin ou notre route, comme vous voulez, sur Europe 1 aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et nos chaussées ne seront peut-être plus en bitume demain, mais fabriquées à base de déchets. C'est le pari que fait Néolith pour la route de demain. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous proposez de découvrir ces Français qui réinventent la route. À quoi va ressembler la route de demain ? On en a déjà eu un aperçu. Eh bien, ça continue avec votre nouvelle invitée à qui vous pouvez poser des questions. 3921 et hashtag Europe 1 sur Twitter.
Et il y a des projets, Anissa, qui se transmettent de père en fils avant de voir le jour. C'est comme ça qu'est né Néolith. Bonjour Nicolas Creau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est votre père, effectivement, qui a eu au départ l'idée de créer une route qui serait fabriquée à base de déchets. Il faut dire qu'il est tailleur de pierre et qu'en réfléchissant un peu, il s'est dit finalement, le calcaire, c'est aussi une matière, une agglomération de matière organique. Et après tout, on pourrait peut-être imaginer demain faire la même chose avec des matières plus actuelles. Vous entrez dans l'aventure avec votre frère et aussi un quatrième fondateur, Clément, c'est ça ?
Exactement. Donc lui, avec ses mots de tailleur de pierre, il n'a pas dit agglomération de matière organique. Je vous passerai la version originale. Mais oui, exactement.
Non, allez-y, ça nous intéresse.
On a commencé ça, nous, l'année dernière. On a testé l'idée, en fait, vraiment d'un point de vue business. Est-ce qu'on pourrait transformer les déchets ménagers non recyclables ? Donc vraiment tout ce qui est dans la poubelle. Donc, que ce soit des plastiques, des restes alimentaires, des tissus, en granulat minéral qui aurait les mêmes caractéristiques qu'un granulat de carrière. Donc on a testé ça au Startup Weekend de l'École Polytechnique, donc où je suis élève actuellement, et en mars 2018. Et là, c'est là qu'on a rencontré Clément, donc notre dernier associé, qui maintenant fait un peu partie de la famille, parce qu'il dort chez nous assez souvent.
Ça fait quand même 5 ans hein, que ce projet est en gestation. Ça fait un moment qu'il est réfléchi, votre père. Là, ça y est, vous avez commencé à récupérer des déchets. Vous avez commencé à les broyer, hein, c'est ça ? Et
c'est
puis
ça.
À faire ce fameux liant minéral ?
C'est ça. En gros, le concept, c'est de broyer le déchet très fin. J'ai un petit caillou là, mais dommage, on est à la radio.
Faites-nous le circuler. On va. Hop, voilà,
on est filmé sur
Europe1.fr, donc on peut le montrer, ce petit caillou. Il est là, il est dans ma main.
Donc le concept, c'est on broie les déchets très fins et on les assèche pour obtenir en fait un petit sable de déchets, donc de l'ordre de 1 mm de diamètre. Et en fait, ce sable, on va lui rajouter un liant minéral. Et donc c'est là l'invention de mon père, c'est lui, il est formulateur en béton. Et ce liant minéral va rendre inertes tous ces déchets et en fait faire prendre dans une matrice qui les permet de les rendre compacts et denses.
Qu'est-ce que vous appelez inerte ?
Alors, inerte, c'est tout ce qui est matériaux organiques. On va vraiment passer par un procédé, ce qu'on appelle de fossilisation, donc qui va faire cristalliser tout ce qui est organique et le rendre à terme minéral.
On dirait vraiment une pierre de l'extérieur.
Autour de ça, on remet un deuxième lent minéral, donc on fait un enrobage, une sorte de sarcophage, qui permet d'éviter de tout transfert de pollution possible entre l'intérieur des déchets et l'extérieur.
C'est pas plus léger quand même qu'une pierre. Ça paraît plus léger.
Celui-là, il est un peu plus léger, mais en fait, à la fin, on va tomber dans les mêmes.
C'est pareil. Ouais. D'accord.
Cette matière, on peut la travailler de plusieurs manières. On peut l'étaler pour qu'elle vienne remplacer le revêtement, le bitume habituel.
Alors non, parce que nous, la vraie solution, c'est de mettre ça sous la route, donc vraiment dans la sous-couche routière, donc les granulats qui sont sous la route, parce que la couche de bitume, elle nécessite des propriétés qui sont bien supérieures à ce qu'on peut faire juste avec un seul granulat. Donc nous, on n'a pas vocation à remplacer le bitume, mais vraiment à faire la couche qui sert à reporter les poids des camions et des voitures.
Ça veut dire aussi, et c'est ça qui est intéressant, qu'on va arrêter d'extraire dans les carrières. On va réutiliser à la place le déchet. Donc c'est vertueux.
En gros, les deux gros intérêts environnementaux, c'est d'une part, comme vous l'avez dit, réduire un peu l'extraction des carrières, qui sont aujourd'hui des enjeux majeurs. Et d'autre part, arrêter à terme l'incinération et l'enfouissement des déchets ménagers, ce qui est quand même un gros morceau d'un point de vue environnemental.
Vous dites que c'est 5% d'économie de nos gaz à effet de serre ?
Oui, d'un point de vue à l'échelle mondiale, si on faisait notre procédé donc de transformation en granulat à la place de l'incinération ou de l'enfouissement, on réduirait de 5% les émissions mondiales de CO2. Donc on considère que c'est un bel objectif à aller chercher.
Thomas ?
Oui, j'avais une question sur les routes. On entend parler beaucoup de la pollution des pneus qui s'effritent et qui génèrent une pollution de caoutchouc qui se promène un peu partout. Mmh. Est-ce que vous, vos granulats, finalement, quand ils vont devenir poussière, ils vont, pareil, diffuser un peu ces microparticules partout ou c'est vraiment inerte et donc ce serait comme de la pierre ou du sable qu'on pourrait...
C'est une vraie question parce que c'est là qu'on doit nous démontrer avec nos partenaires de recherche la bonne tenue de notre granulat. Faut voir que sur les liants minéraux qu'on utilise, on est sur des bétons, ce qu'on appelle similaires à des bétons très haute performance, donc qui ont des caractéristiques mécaniques en fait bien supérieures à des granulats normaux. Et donc on n'a pas trop ce procédé d'érosion. Et même si à terme, au bout de 500 ans, le procédé, la couche s'est un peu érodée, en fait le déchet est pris dans une matrice de liant qui lui aussi l'empêche. C'est pas juste une coque avec des déchets dedans. C'est vraiment, tout est pris dans un liant, et donc vous n'allez pas avoir de transmission.
Donc c'est plus durable, beaucoup plus durable.
Oui, clairement. Oui.
Oui, Anissa ?
Alors, ça ressemble à de la pierre, c'est quasiment de la pierre, ça on l'a vu, vous nous avez apporté un échantillon, mais en termes de prix, est-ce que ça ressemble à de la pierre ? C'est plus cher, c'est moins cher que de la pierre ?
Alors, c'est là où on considère qu'on est assez fort aussi, c'est que le prix du granulat, ça va être le même qu'un granulat normal.
D'accord. Donc
ça,
pour qu'on ait une idée,
c'est à peu près de l'ordre de 10 euros la tonne. Mm-hmm. Mais surtout pour la collectivité qui veut faire traiter ses déchets, c'est pas quelque chose qui va être plus cher que d'habitude pour elle. Donc on se place sur les mêmes prix que l'incinération ou l'enfouissement. Donc à la collectivité, on lui propose de faire mieux d'un point de vue environnemental, mm-hmm, au même prix. Et donc nous, s'il y a quelques collectivités qui m'écoutent, on serait très intéressés. Bah là, on est en train de discuter avec la collectivité d'Angers, donc d'où moi je suis originaire, pour déjà faire notre pré-industrialisation et ensuite notre première usine.
Ouais, c'est prêt à l'emploi. Si demain, la collectivité d'Angers ou une autre, nous écoute peut-être aujourd'hui sur Europe 1, décroche son téléphone et vous contacte, vous allez pouvoir poser ce revêtement sous le bitume s'il y a une part de route en travaux.
À peine. On est encore en fin de R&D, donc on doit encore démontrer les choses. On prévoit notre première usine pour début 2021. Donc, ce sera plutôt sur cet horizon-là.
Oui, mais en tout cas, manifestement, le secteur y croit, parce que vous avez remporté des prix à Vivatech. Vous avez fait la démonstration, la preuve.
Oui, on a été soutenu par pas mal de prix. Le dernier étant à Vivatech, où on a fait gagner l'école polytechnique sur un concours inter-école. Et donc il y a énormément de marques d'intérêt, que ce soit des collectivités ou des industriels du BTP, qui sont très intéressés par un nouveau granulat qui leur éviterait d'aller chercher dans leur carrière, qui sont quand même des ressources finies.
Alors, on était sous le bitume, mais on peut peut-être rêver, Elisabeth, parce que la route totalement recyclée, elle va peut-être être inventée bientôt.
En tout cas, avec Eurovia, là, c'est une filiale du groupe Vinci. Ils proposent des routes entièrement recyclées. Une autoroute, par exemple, près de Bordeaux, qui utilise à 98% l'ancien bitume. Eurovia a lancé la route Power Road. C'est une route qui récupère la chaleur du bitume chauffée par le soleil. Apparemment, c'est une première mondiale. Cette entreprise applique à l'industrie routière les principes, là aussi, de l'économie circulaire en faisant des chaussées existantes, des gisements de matières premières pour limiter l'empreinte environnementale des travaux routiers. Eurovia.
Eh oui, ça laisse songeur. Vous restez avec nous sur Europe 1 et on continue notre route aujourd'hui.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. Avec vous, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et depuis 13h, Raphaël, grâce à vous, grâce à vos invités, nous découvrons les routes de demain. Ils sont français, ils innovent, ils réinventent nos routes. Et vous pouvez leur poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Hashtag Europe 1 sur Twitter, 3921, on vous écoute dès maintenant.
Nous sommes avec Thomas Hurier, qui est notre coach aujourd'hui, fondateur des jeans 1083, la marque Made in France, avec Elisabeth Assayek, bien sûr, et une de nos invités, c'est Sylvie Lette, présidente d'Alta Road, Jean-François Létard, PDG d'Olicrome, et Nicolas Cruau, cofondateur de Néolith. Je crois qu'on a déjà une question sur Twitter, Anissa.
On a une question de Marc sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il vous pose cette même question à tous les trois. Vos innovations sont très intéressantes, mais si vous les vendez aux propriétaires d'autoroutes, ne croyez-vous pas que cela va augmenter le prix des péages?
Ah, le fameux prix des péages. Est-ce que ça va avoir, en clair, hein, une incidence pour nous, automobilistes? Qui a envie de répondre? Quelqu'un veut se lancer? C'est Sylvie Lette.
Alors, si je la vends, par exemple, à une autoroute, là, le but pour l'autoroute, c'est plutôt d'optimiser sa marge à elle. Donc, ce n'est pas d'augmenter le prix du péage, c'est plutôt une opportunité pour eux
De faire des économies,
parce que finalement, ils ont déjà fait des économies, ils ont centralisé les personnes des péages. Maintenant, il y a beaucoup d'interphones, etc. Ce qu'il leur reste comme marge d'optimisation, c'est de mieux réparer pour qu'ils aient la même qualité de route à la fin, mais qu'ils aient investi au bon endroit au bon moment.
En tout cas, ils ne les baisseront pas, alors. Même si il y a moins de dégâts.
Ça, c'est leur choix.
C'est vrai que c'est souvent la raison invoquée, hein, quand on augmente le prix des péages. On nous dit, vous comprenez bien qu'il y a une question d'entretien des infrastructures. Donc, si vous agissez en amont, en théorie, c'est censé être moins douloureux pour le porte-monnaie des Français.
Voilà. Ils augmenteront peut-être pas.
qui a envie peut-être de prendre position sur cette question, Jean-François Létard?
Disons que, comment ça s'appelle, pour la peinture luminochrome, il n'est pas question de la déployer partout, juste dans les endroits accidentogènes, aux entrées de péage, dans les courbes. Là, on va plutôt apporter un élément de sécurité. On va aussi contribuer pour la voiture autonome, parce que la voiture autonome, elle va devoir se guider. Elle va devoir se guider aussi bien de jour que de nuit, d'où ces peintures qui sont capables de s'éclairer la nuit vont avoir un intérêt. Alors, pour la question
Peinture sur autoroute, oui, c'est quelque chose que vous envisagez.
Oui, tout à fait. Maintenant, sur cette question de prix, je pense qu'on va contribuer, comme toujours, à faire de la rénovation. Et donc, ils ne pourront pas, quelque part, argumenter pour baisser leur prix.
Nicolas?
Nous, nos granulats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les revend au même prix que des granulats de carrière. Donc, a priori...
Il n'y a pas de raison. Bon, j'espère que Marc, qui est un fidèle de l'émission, est satisfait de vos réponses à tous les trois. Je reviens vers vous, Nicolas Cruau. Je veux absolument changer le bitume, qu'il soit finalement plus propre, lui aussi. Est-ce qu'il y a une solution pour le rendre différent, pour qu'il soit un peu plus écologique? Parce que pour l'instant, on est loin du compte. Hein.
Actuellement, je crois qu'il y a des entreprises des routes qui font des bitumes entièrement recyclés. Je ne sais plus c'est laquelle qui s'y est mis récemment. Et peut-être notre granulat, dans un futur, si on arrive à démontrer qu'on a des super propriétés mécaniques, on pourra les mettre dans un bitume. Mais je pense que c'est vraiment
pas notre
propriété.
Parce que vous dites, pour l'instant, la difficulté, c'est l'érosion de...
C'est ça. C'est nous, finalement, étant donné que si on érode notre granulat jusqu'à ce qu'il soit plus que la moitié d'un granulat, on va atterrir sur les déchets, même s'ils sont pris dans une matrice. C'est quand même pas optimal, je pense, vis-à-vis, normalement, juste d'une sous-couche routière qui abîme très peu les granulats.
Cécile Vellette.
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est une route, en fait, c'est un millefeuille. Il y a une toute petite couche très fine sur laquelle on route, qui s'appelle la couche de roulement. Et ensuite, il y a des grosses couches de base où il y a plein de cailloux dedans. Donc en fait, son innovation, elle va plutôt dans ses couches de base. Celle qui est hyper, super sollicitée, c'est la toute première. Et en fait, sur celle-là, typiquement, nous, on a travaillé avec Eiffage. Eiffage travaille à avoir un liant végétal. Donc le fait de pouvoir changer cette partie-là pour avoir des... que ce soit moins polluant...
Oui, que ça ne soit pas issu de la pétrochimie.
Voilà.
Hein,
c'est déjà en cours.
C'est l'idée. Thomas, une question ?
Moi, c'est une remarque générale. Quand on pense entrepreneuriat, Made in France, innovation, on pense tout de suite soit à la mode, soit au tech, etc. Et de voir que la créativité, elle est partout dans la France, dans tous les métiers, même dans ceux qu'on ne soupçonne pas, derrière nos routes, etc. Je trouve ça génial parce que ça montre que voilà, la France bouge partout. Et du coup, toutes ces solutions sur lesquelles on travaille tous, sur l'économie d'énergie, etc. Et ben, en fait, chacun fait sa petite part dans son métier, sa part d'innovation qui fait que demain, ben, on roulera de manière plus écologique, on s'habillera mieux, on aura moins d'accidents. Donc voilà, je voulais vous dire merci.
Ça a été très difficile pour les uns et les autres justement de faire émerger ces innovations, de les rendre visibles dans un secteur qui est bien particulier, hein, dans lequel on s'aperçoit qu'effectivement il y a de plus en plus d'idées qui sont en train de fourmiller.
Oui, mais dans le cadre de Holychrome, en fait, on a bénéficié d'un programme Route du Futur qui a été lancé par l'ADEME, une appel d'offres et programme d'investissement d'avenir. Et en fait, Holychrome a été embarqué avec Eiffage et le groupe Total et Leafstar pour justement développer ces technologies. Et c'est dans ce cadre-là. Et ce programme nous a permis non seulement de développer, de faire les démonstrateurs, de réaliser les premiers échantillons, mais aussi de cofinancer l'usine, puisqu'aujourd'hui, Holychrome a ouvert une usine et produit ses peintures, puisqu'on commercialise déjà ses peintures. Donc sans ce programme, quelque part, nous ne saurions pas arriver à cette innovation.
Vous êtes 14 aujourd'hui, c'est ça,
aujourd'hui,
chez Holychrome.
Nous sommes 14.
Et vous êtes 12, vous, chez Altarode.
Oui,
Altarode qui a reçu des prix aussi.
Oui, et en fait, moi, ce que je voudrais dire sur... monter une entreprise, c'est difficile. Par contre, je trouve qu'en ce moment, en France, on a un énorme soutien. Et en particulier, si on travaille sur des thématiques de mobilité plus propre et plus durable, on a énormément de soutien par des subventions, par des programmes européens, par la BPI. Et donc, sur ce côté-là, moi, j'ai trouvé qu'on avait été très soutenus et qu'on a eu de la visibilité très tôt. Même au moment où on était un tout petit capteur sorti de son labo, que ça nous a beaucoup aidé.
Même chose pour vous, Nicolas ?
Bah, nous, en fait, à la base, on n'est pas un secteur, une entreprise très sexy parce qu'on prend des poubelles et on en fait des cailloux. Donc, c'est quand même pas le summum de la tech et du machine learning qu'on pourrait imaginer. Par contre, en fait, on s'est rendu compte. Donc, on a eu quelques mois au début où on a eu un peu de mal à se faire connaître. Par contre, on s'est rendu compte que c'était à nous de faire l'effort de changer notre message pour obtenir un peu de visibilité, pour faire comprendre aux gens à quel point ce qu'on faisait, c'était intéressant. Et là, actuellement, bah, ça va mieux parce que les gens comprennent que les poubelles, c'est un vrai problème. Les incinérer, c'est pas forcément ultra bien. Et que les carrières, bah, c'est des ressources finies. Donc, si on peut mélanger tout ça et éviter de la pollution, ça arrange tout le monde.
Et Elisabeth, je voudrais qu'on termine avec le contrôle technique des voitures, parce que ça aussi c'est important pour la route.
Il y a aussi des contrôles techniques de route. Comment on pourrait vérifier l'état des routes plus efficacement, parce que ça aussi c'est un sujet important, et c'est l'objectif d'une start-up qui existe depuis 2016, qui s'appelle CityMagine, qui propose le premier contrôle technique de la route. Elle est destinée aux gestionnaires publics et privés des routes pour là aussi accroître la sécurité, baisser les coûts de maintenance et se préparer à l'arrivée des voitures électriques connectées et autonomes.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
Et de nous avoir permis d'imaginer cette route du futur qui est déjà presque là chez nous en France. Merci beaucoup d'être venus sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, elle existe depuis 1886. Elle est née du côté de Saint-Étienne, a connu des hauts et des bas. Griffon est l'entreprise qui va mieux, merci. À tout de suite.
Europe 1.
Et la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Jusqu'à 14h, Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien aujourd'hui et elle fabrique des sanitaires.
Ah oui, cette entreprise, je suis sûre que vous la connaissez, c'est Griffon. Bonjour François Monnier.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez ce groupe depuis 2016, c'est assez récent, groupe qui existe lui depuis 1886 et qui a longtemps été effectivement une des marques connues, reconnues pour les toilettes. Mais si on remonte tout au début, Griffon, c'est avant tout, à Saint-Étienne, un magasin de plomberie. C'est comme ça que tout commence, que démarre l'aventure.
Voilà, l'aventure démarre, c'est donc la famille Griffon qui a repris La famille a repris le logo donc, de l'animal mythologique, le griffon, mais c'était la famille qui s'appelle la famille Griffon. C'était Claudius Griffon, donc, qui est l'inventeur du système hydrochasse, un toilette qu'on vend toujours et qui est fabriqué à Saint-Étienne.
Le fameux Claudius Griffon qui a travaillé notamment pour les palaces parisiens et qui, pendant la guerre, a été blessé et qui, finalement, pour s'occuper, a créé ce fameux système.
Voilà, exactement. C'est souvent dans les systèmes les plus... Enfin, à cette époque-là, ils inventaient pas mal de choses. Il s'avère que pendant la guerre, où il avait, suite à... Pardon, excusez-moi. Suite à son accident, en fait, il a inventé ce système d'hydrochasse. Et grâce à ça, il a pu... le pérenniser, l'installer, construire une entreprise et en vendre des millions qui ont été installés en France, dans toute la France.
Qu'est-ce qu'il a de spécial? Racontez-moi, décrivez-le pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas finalement ce système. Qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire?
Bon, c'est un toilette qui est assez révolutionnaire dans la mesure où il est, c'est comme un gros extincteur. C'est une cuve de 12 litres d'air, donc il remplit de 8 litres d'eau. Et qui est apparent, donc qu'on peut colorer de toutes les couleurs. Il se trouve que ce système est assez innovant parce qu'il permet de réaliser plus de 50% d'économie d'eau. Et donc c'est un système qui est en aluminium avec des matériaux recyclables. Voilà.
Et on est finalement avant-gardiste chez Griffon parce que ce système, il a été inventé dans les années 40. Et aujourd'hui, on est tous en train de chercher à faire des économies d'eau. Alors, on a inventé tout un tas d'autres systèmes, mais finalement, ce système, on l'avait déjà sous la main.
Oui, tout à fait, exactement. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que les sanitaires, c'est un domaine où il y a peu d'acteurs. C'est un système qui a l'ensemble des WC. On peut évoluer depuis le temps. Il s'avère que le système Griffon, qui a plus de 60 ans, 50 ans, aujourd'hui, reste un des systèmes les plus avantageux, économes en eau. Quoi.
Voilà. Oui. Alors, la société, le problème, c'est qu'à un moment donné, elle a oublié d'innover. C'est là que vous arrivez, parce qu'elle a connu des hauts, hein, cette société. Il y a eu jusqu'à 150 personnes qui ont travaillé pour elle. Vous vous rendez compte, il y a 9 ans, qu'elle est en train de péricliter. Et vous avez envie d'intervenir, parce que finalement, vous le connaissez, ce système. Vous l'avez déjà vu. Vous dites, quand je vois Griffon, je me dis, mais j'avais ça, moi, à la maternelle.
Oui, voilà, tout à fait. En fait, au départ, j'ai créé une société qui s'appelle Alsolu, qui fabrique des produits en aluminium pour le bâtiment. Et en recrutant un soudeur aluminium, parce que le système Griffon est composé d'aluminium, je demande un peu le parcours des anciens salariés dans lesquelles entreprises ont travaillé. Ils m'expliquaient qu'ils quittaient la société Griffon. Et en tapant sur Internet, regardant Griffon, je découvre que cette société, en fait, était stéphanoise. Je l'ignorais complètement et qu'elle allait arrêter, quoi. Et c'est vrai que... Je suis vraiment passionné par tout ce qui est l'industrie à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville formidable où on a eu Manu France, on a eu les Sigvitus, on a eu tout un passé industriel très intéressant. Et il y a beaucoup d'entreprises comme celle-ci qui sont tombées dans l'oubli, dans l'indifférent général. Et puis après, c'est comme une aventure commence comme ça. On demande à notre avocat de se renseigner, de se contacter. Puis après, quand on est un peu optimiste, on se lance dans l'aventure.
Et avec un ami d'enfance.
Voilà, avec un ami d'enfance que j'ai... Bon, il n'a pas trop vraiment eu le choix, mais du coup, il m'a accompagné avec grand plaisir, Thibaut Elzière.
Et vous relancez la production.
Donc, on restructure la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour lancer une entreprise, il faut avoir vraiment tout un écosystème... tout un écosystème informatique de règles et de méthodes qui est plus précis. Et donc on a réindustrialisé l'entreprise, on l'a restructurée et on la relance aujourd'hui.
Voilà. Que dit le coach de cette aventure?
Alors moi je suis fan, alors du coup je n'ai pas du tout être objectif. Mais les
vous avez le droit Thomas.
C'est super beau, c'est local, ça fait faire des économies d'eau et je voudrais rajouter que c'est réparable. Et en fait par rapport à toutes ces chasses en plastique que l'on change à chaque fois qu'elle casse, et bien là, en fait, tout est très simple, tout est réparable. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le type d'entreprise qui, demain, va se développer en France. C'est l'économie de réparation, de la robustesse. Et à tel point que dans le projet qu'on a à Romans de rénovation d'usine Charles Jourdan, ce sont les chasques Griffon qui prennent toutes nos toilettes. Donc, c'est vraiment un super projet local. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire des travaux et à remplacer leurs chasses dans leurs toilettes.
Griffon est en train de renaître grâce à vous. C'est quoi la suite? Comment est-ce que vous envisagez les choses?
Aujourd'hui, c'est un marché qui est assez énorme. Hein, tout le monde utilise des toilettes. C'est un marché, comme je vous ai expliqué, où il y a peu d'acteurs, où le système de distribution est assez archaïque. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir proposer ce système-là au plus grand nombre et d'essayer de trouver des solutions pour
distribuer. De nouveaux circuits de distribution.
Voilà, de manière un peu plus directement au client, en pouvant le personnaliser Et justement, bon, on est une de rares entreprises où aujourd'hui vous appelez Griffon, vous tombez sur, vous avez quelqu'un au téléphone qui vous accueille, qui vous explique le produit. On a un site internet aussi où on peut trouver l'ensemble de nos produits. Voilà.
Thomas.
Et je crois que c'est la seule chasse d'eau made in France. Je ne pense pas qu'on puisse en trouver d'autres made in France. Tout le reste en plastique est importé. Donc c'est vraiment la manière la plus locale d'aller aux toilettes.
Voilà, tout à fait. Et comme vous dites, c'est un produit vraiment qui on peut remplacer chaque pièce, qui est vraiment un produit qui est pérenne. On a d'ailleurs certaines personnes qui ont des toilettes Griffon depuis plus de 50 ans, etc. Donc c'est assez, qu'on a parfois au téléphone pour changer une pièce ou autre, c'est assez drôle d'ailleurs tout ça.
Et ça résiste.
Voilà, ça résiste exactement quoi.
Oui. Et ça résiste aujourd'hui grâce à vous. Merci d'être venu nous parler de Griffon, qui est l'entreprise qui va mieux grâce à vous aujourd'hui sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Permettre aux malvoyants de découvrir des spectacles de théâtre, par exemple, c'est ce que proposent les souffleurs d'images. C'est la solution pour leur décrire ce qu'ils ne voient pas. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, elle s'adresse aux malvoyants et
oui,
non-voyants.
Pour permettre à toutes ces personnes, effectivement, d'aller à des spectacles ou à des expositions, il existe une solution, Elisabeth, ce sont les souffleurs d'images.
Oui, les souffleurs d'images, ce sont des bénévoles qui proposent aux personnes aveugles et malvoyantes d'accéder, quand elles le souhaitent, à l'événement culturel de leur choix. Il s'agit donc d'un souffleur bénévole, lui-même étudiant en art ou artiste, qui décrit, il souffle à l'oreille du spectateur aveugle ou malvoyant les éléments qu'il ne peut pas voir le temps d'un spectacle ou d'une exposition. Bonjour Émilie Bougouin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du CRTH, le Centre de Recherche et d'Handicap, dont dépend le service souffleur d'images. Un soufflage, comment ça marche?
Alors un soufflage, imaginons, je suis spectateur aveugle ou malvoyant, on est le 2 juillet et je souhaite me rendre à un spectacle. Je vais donc sur le nouveau site du service souffleur d'images,
oui,
que nous avons développé spécifiquement et qui reprend toutes les fonctionnalités du service. Mm-hmm. Je me rends sur le site et sur la page des partenaires culturels, j'identifie une offre qui m'intéresse parmi l'un des partenaires ou des festivals qui indiquent
proposés,
l'ensemble de leur programmation. Je sélectionne un spectacle, je réserve le spectacle auprès du lieu et ensuite, par le site, je sollicite le souffleur d'images
disponible,
pour m'accompagner.
Disponible le temps du spectacle, j'imagine qu'on ne le choisit pas.
Exactement.
C'est la personne
après,
qui est disponible.
C'est tout le rôle du service que de mettre en lien le souffleur et le soufflé. Le spectateur, on l'appelle le soufflé dans notre jargon à nous.
Donc la place est gratuite, j'imagine, pour le souffleur.
Alors voilà, il y a toute une action de partenariat entre
bien
les
sûr,
acteurs
ouais,
qui font réseau hein, et qui permettent l'existence de ce service. Le lieu culturel offre la place du souffleur. Le souffleur est formé et bénévole et formé par nos soins.
Par vos soins.
Et le spectateur, lui, paye sa place au tarif en vigueur dans le lieu.
Y a-t-il un profil particulier pour devenir souffleur?
Oui, il y a un profil particulier, exactement. On s'adresse vraiment notamment à des artistes ou à des étudiants en art, dans la mesure où c'est leur discipline qu'ils vont transmettre, leur appétence. Et c'est également une façon pour nous de les engager déjà, pour les étudiants en art, sur la question de l'accessibilité des publics.
Et du handicap. Ils se rencontrent pour la première fois devant la salle de spectacle ou ils rentrent en contact avant?
Ils rentrent en contact.
Il y a un lien quand même qui s'établit, j'imagine.
Alors, ils rentrent en contact en amont par téléphone pour se donner rendez-vous. Mmh. Mais c'est vraiment un accompagnement le temps du spectacle ou de l'exposition. Donc, ils se retrouvent un tout petit peu en amont, discutent et échangent.
Oui, j'ai essayé de m'imaginer. Je ferme les yeux, vous êtes mon souffleur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez me décrire de ce que je ne vois pas dans le studio d'Europe 1?
Alors, je vais vous décrire la forme de la pièce, qui est assez particulière ici, hein, qui est un peu octogonale, allongée. Notre répartition sur des tables face à face.
Toute la mise en scène du spectacle.
Les couleurs.
Les couleurs, par exemple. C'est vrai que la particularité du service, c'est de proposer une information vraiment personnalisée, en fonction du champ visuel de la personne ou de la cécité, le souffleur va vraiment adapter sa description à l'envie du spectateur.
Ça peut être un cirque, une expo.
Voilà, théâtre, exposition, danse, musée.
Tout type, finalement, d'événements.
D'événements, spectacle vivant.
Thomas ?
J'avais une question pratique. Si je vais au théâtre avec un souffleur, comment ça se passe pour ne pas déranger les autres spectateurs ou ne pas se faire reprendre par les voisins qui diraient « chut », des choses comme ça ?
Oui, exactement. Alors, on a mis en place en fait un process, tout simplement, où le binôme souffleur-soufflé prévient les spectateurs environnants de ce qui va se passer.
De la présence, oui.
Donc déjà, il y a un capital sympathie, je dirais, curiosité, découverte qui joue en leur faveur. Et par ailleurs, dans le cadre de la formation, on leur apprend vraiment à souffler tout doucement. Il y a aussi une question de positionnement. Ce qui est très fatigant pour des spectateurs derrière, c'est de voir quelqu'un qui ne cesse de bouger de droite à gauche. Là, le souffleur se cale. Voilà. Et puis, il ne souffle pas non plus pendant toute la durée du spectacle.
Oui, parce qu'au théâtre, ça va jouer en même temps qu'il souffle. Donc, il faut qu'aussi le spectateur puisse écouter
exactement. Ce qui se passe. Donc, il va vraiment souffler entre les dialogues et à la demande du spectateur. Ça, c'est très important.
Oui.
Ça s'appelle le souffleur d'image. Une dernière précision,
oui,
peut-être.
Oui, une précision importante, c'est que vous venez d'achever le site internet souffleur.org. Et donc, c'est une manière de sortir de Paris et que les souffleurs s'étendent partout en France.
Exactement. Voilà. Nous partons souffleur en festival. D'image. À partir de cet été.
On vous retrouvera sur les routes de France. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution.
Avec plaisir.
Merci à Thomas qui était notre coach. On se donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, à partir du 13 juillet, la France des solutions, vous pouvez, sur notre site internet, aller postuler si vous avez des idées pour rassembler les Français.